Voix Nue. Cette semaine, Antoine Ravon rencontre Didier Ribon. Ce soir, je me fantasmais comme un futur philosophe.
Bonsoir Didier Ribon.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, philosophe. Vous avez enseigné à l'université de Berkeley. Vous êtes fellow au King's College à Cambridge. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont certains ont une reconnaissance bien au-delà du cercle académique, comme Réflexion sur la question gay, Une morale du minoritaire, La société comme verdict, Principe d'une pensée critique, écrit sur la psychanalyse. Et puis Retour à Reims, qui est votre ouvrage le plus connu, traduit dans une vingtaine de langues et qui a été adapté plusieurs fois au théâtre, notamment par Thomas Ostermeyer. C'est un ouvrage que vous présentez comme une réflexion sociologique, mais comme dans la plupart de vos livres, vous trouvez souvent à la frontière de la littérature ou d'une réflexion littéraire en tout cas. Et pourtant, vers la fin de Retour à Reims, vous écrivez « Chez moi, dans mon enfance, il n'y avait pas de livres ». Donc on pourrait peut-être commencer par là. Vous êtes le seul de votre famille à avoir suivi un cursus scolaire au-delà de l'âge obligatoire.
Oui, en fait, je suis né dans un milieu ouvrier, au plus bas de l'échelle ouvrière. Mon père était manœuvre et ma mère femme de ménage. Et évidemment, c'était des gens qui travaillaient très très dur, qui avaient des métiers difficiles, des vies difficiles, qui avaient eu auparavant, dans leur enfance, des vies très difficiles. Et bien sûr, c'est un milieu où on ne lisait pas de livres, où on ne parlait pas de culture, où tout ça sont des choses que j'ai découvertes par moi-même et qui ne m'étaient pas données par le milieu dans lequel je suis né, dans lequel j'ai passé mon enfance, mon adolescence. Et évidemment, Retour à Reims, c'est un livre qui essaie d'explorer cet ensemble de questions. Qu'est-ce que sur l'existence des classes sociales, en fait, et là, qu'est-ce qui... Puisqu'il y avait tout un discours qui tendait à dire « il n'y a plus de classes sociales, les classes sociales n'existent plus ». Aujourd'hui, il y a une vaste classe moyenne qui comprend à peu près tous les individus, sauf quelques très riches et quelques très pauvres, exclus de la société. Et ce discours me semblait tout à fait scandaleux, non seulement faux, mais scandaleux, étant donné que je savais... Quand on est passé par là, quand on a eu cette expérience-là, on sait qu'il y a des classes sociales et que ça n'est pas simplement un objet de discussion théorique, ce sont des réalités concrètes de la vie quotidienne, du monde du travail. Chez moi, quand j'étais enfant, nous n'avions pas à manger tous les jours. Et ce sont des réalités qui étaient très présentes à l'époque de mon enfance, non pas qu'elles aient disparu, parce que je sais que c'est toujours le cas dans de nombreux pays, y compris en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a des enfants qui n'ont pas à manger tous les jours parce que les parents travaillent ou sont au chômage et n'ont pas de quoi acheter de la nourriture tous les jours. Mais toujours est-il que je viens d'un milieu où, dans la mesure où nous n'avions pas de quoi manger, il est évident qu'on n'achetait pas de livres et de toute façon, mes parents n'avaient pas fait d'études, n'allaient pas lire des livres, leur métier était trop dur pour avoir des loisirs. Et le seul loisir auquel ils ont pu accéder à partir d'un moment de leur existence, quand ça allait un peu mieux pour eux, c'est d'avoir acheté un poste de télévision et regarder la télévision tous les soirs, comme beaucoup de gens font, surtout quand ils ont travaillé toute la journée dans des métiers très pénibles.
Et comment vous expliquez alors que vous avez eu accès à la culture et qu'un goût pour la culture s'est développé chez vous?
Vous savez, c'est évidemment en écrivant Retour à Reims et puis en accompagnant la sortie de Retour à Reims et en France et dans un certain nombre de pays, c'est une question à laquelle j'ai été souvent amené à essayer de répondre et je n'ai pas de réponse que je pourrais considérer comme ferme, définitive, absolue, exacte. Comment se fait-il que je sois resté dans le système scolaire après l'école primaire? Mon frère est sorti du système scolaire, mon frère aîné a commencé à travailler à 14 ans, puisque c'était l'âge auquel on pouvait commencer à travailler. Et moi, je suis entré au lycée, puisqu'on disait lycée à l'époque, qui était la classe de sixième, on dirait collège aujourd'hui, qui était déjà une sorte de déviation de la trajectoire. J'aurais dû passer mon certificat d'études primaires et puis aller travailler. Mais évidemment, tout mon parcours dans les premières années du système scolaire secondaire ont été marqués par de très très grandes difficultés. Comme j'étais promis à une sorte d'élimination, j'avais beaucoup beaucoup de mal, sans le savoir d'ailleurs, j'étais quelqu'un qui avait du mal à me plier à la discipline scolaire. Comme les enfants des classes populaires, on rencontre toujours ce problème-là. Ils sont éliminés d'avance, mais étant éliminés d'avance, il y a aussi une participation des enfants des classes populaires à ce qu'on appelle l'auto-élimination. Je m'auto-éliminais parce que la culture scolaire, le monde scolaire, l'habitude corporelle, je n'arrivais pas à me plier à la discipline scolaire. J'étais chahuteur, je rigolais en classe. Et évidemment, tous les gens qui venaient du même milieu que moi, quand j'étais dans ces 6e, 5e, 4e, étaient éliminés peu à peu. Et moi, j'aurais dû être éliminé comme eux. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas été. J'ai survécu à cette élimination programmée.
Est-ce que ça veut dire que les raisons pour lesquelles vous avez survécu au système scolaire, c'est de l'aléatoire, de l'arbitraire pur ?
Il y a plusieurs raisons. Je dirais que parce que il y avait un garçon comme je le raconte dans Retour à Reims, il y avait un garçon dans ma classe qui était fils de professeur d'université, que j'adorais. Je peux dire aujourd'hui que j'ai été amoureux de lui, mais à l'époque, je ne le savais pas, puisque je ne me vivais pas, évidemment, j'avais 13 ou 14 ans, je ne me pensais pas comme un jeune gay amoureux d'un camarade de classe, mais de fait, c'était ça. Et comme j'étais fasciné par ce garçon, je voulais être comme lui. Et lui, il lisait des livres, il avait des frères étudiants à l'université, donc il me parlait de Jean-Luc Godard, il parlait de littérature, de Beckett. Et j'ai voulu parler de Jean-Luc Godard, parler de Beckett, sans avoir vu de film de Godard ou lu de livre de Beckett. Mais après, je me suis mis à voir les films de Godard, à lire les livres de Beckett. Et ça, je pense, ça a été déterminant pour moi. Ma grand-mère paternelle ne savait pas lire. Et moi, je me suis mis à lire Samuel Beckett. Il y a donc ici quelque chose d'assez vertigineux quand on pense entre d'une génération à l'autre, comment des choses peuvent changer pour quelques individus, pour des raisons tout à fait difficiles à expliquer. Mais comment ensuite j'ai survécu dans ce système scolaire? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'homosexualité. Je pense que c'est une clé explicative tout à fait décisive.
Pourquoi ?
Parce que, comme je ne correspondais pas aux normes de la masculinité prescrites dans mon milieu, je n'étais pas un garçon bagarreur qui allait draguer les filles, évidemment. Comme j'étais différent, j'étais obligé de différer de plus en plus. Et en différant de plus en plus, la culture, l'adhésion à la culture, l'enthousiasme pour la culture a été pour moi un moyen de m'affirmer comme ce que j'étais. À 16 ans, je lisais Marguerite Duras, je me souviens de la librairie à Reims où j'ai acheté Détruire, dit-elle, ça devait être en 69, j'avais 15 ans peut-être, 16. Et lire Marguerite Duras, c'était une manière de dire je suis gay, sans le dire et sans même le savoir totalement moi-même. Quand on lit Détruire, dit-elle, évidemment, on ne correspond pas aux normes de la masculinité, comme mon frère aîné qui aimait sortir avec ses amis le samedi soir, des bandes qui se bagarraient et tout ça. Donc je n'étais pas ça. Donc je pense que l'homosexualité a été pour moi l'un des vecteurs de la dissociation d'avec mon milieu d'origine. Et c'est passé évidemment par l'adhésion à la culture. Le cliché du gay, l'homosexuel cultivé qui aime les livres, etc. Parce que les clichés ont toujours quelque chose de vrai. Ce cliché a quelque chose de vrai, en tout cas avait quelque chose de vrai pour moi.
Et donc, vous avez annoncé un deuxième vecteur d'adhésion à la culture avec l'homosexualité qui est...
La deuxième clé explicative serait l'effervescence de mai 68. En mai 68, j'avais 14 ans, donc je n'y ai participé que d'assez loin, évidemment. Mais l'après 68, je me suis enthousiasmé pour mai 68, les manifestations et tout ce qui s'est passé après. Je suis devenu, à 16 ans également, d'un côté je lisais Marguerite Duras, de l'autre côté je suis devenu militant trotskiste. Et la politisation, c'était aussi, quand on était un jeune militant, ou quand on était un militant, on se sentait obligé de se donner une formation historique, théorique. Alors je lisais Marx, je lisais Lénine, je lisais Trotsky, ce qui m'a amené évidemment à lire, ce qui m'a amené plus tard à lire Hegel, puis les textes de philosophie. Mais aussi, j'étais fasciné par l'engagement des intellectuels et des artistes. Et quand je voyais les auteurs, évidemment, je n'avais aucun moyen de découvrir des auteurs, puisque dans ma famille, on ne les connaissait pas. Mais quand je voyais des noms d'auteurs au bas d'une pétition, et Dieu sait si à l'époque il y en avait, je voyais Simone de Beauvoir, l'enthousiasme pour Simone de Beauvoir est né d'avoir vu un jour son nom au bas d'une pétition. Son nom me fascinait, Simone de Beauvoir, c'était un nom superbe, et je me suis mis à lire, j'avais 17-18 ans, ses mémoires, puis j'ai lu tout ce qui était possible de lire d'elle, et je pense que ce mélange de l'homosexualité m'orientant vers des choix culturels, littéraires, et la politisation qui était lié à un engagement des intellectuels. Tout ceci m'a donné, à cette époque, une sorte de volonté de connaître tout ça, de participer à tout ça. Et donc mes fantasmes, c'était d'habiter Paris, de traîner à Montparnasse pour connaître les lieux où Sartre et Beauvoir déjeunaient ou dînaient, qui sont si bien décrits dans ses mémoires, les mémoires de Beauvoir. Donc je pense que les deux facteurs de ce que je peux appeler la déviation de la trajectoire sociale viennent d'une déviance, entre guillemets, sexuelle, déviance par rapport à la norme qui régnait dans mon milieu, qui règne toujours d'ailleurs, dans des milieux comme équivalents à celui où je suis né, et le bouillonnement intellectuel des années 60 et 70.
Mais donc d'un côté, il y a votre propre adhésion à la culture et votre goût pour la culture grandissant. Mais il y a aussi le fait que vos parents vous ont laissé continuer d'aller à l'école aussi longtemps. Et ça, comment vous pouvez l'expliquer ?
Ça, c'est très difficile parce que ma mère avait été abandonnée par sa propre mère pendant la guerre. Et donc, elle était à l'orphelinat. Et ma mère, qui aurait rêvé de faire des études secondaires, elle voulait devenir institutrice, c'était pour elle quelque chose ce à quoi elle aspirait, et qui était un rêve inaccessible pour elle, puisqu'elle était à l'orphelinat, et à l'âge de 14 ans, l'orphelinat l'a placée comme bonne, c'était l'expression comme bonne à tout faire, c'est l'expression qu'employait ma mère. Elle disait même j'étais la boniche. Je me permets d'utiliser ce mot, parce que c'est le mot que ma mère utilisait. J'étais une pauvre boniche. Et donc elle n'a pas fait d'études. Et ça a été un grand regret de sa vie. Toute sa vie, elle a ressassé avec amertume le fait de ne pas avoir pu faire des études secondaires et devenir institutrice. Et elle a un peu reporté sur moi le fait qu'elle n'avait pas pu, tout ce qu'elle n'avait pas pu accomplir, elle était heureuse que moi je puisse l'accomplir. Donc elle m'a soutenu quand je suis, après la seconde, la classe de seconde, où j'aurais pu quitter le lycée. Elle m'a laissé aller jusqu'au bac, elle était même très contente. Mes parents étaient très furieux quand ils apprenaient qu'au lieu d'aller en cours, j'allais distribuer des tracts ou vendre rouge le journal de la Ligue communiste.
Pourtant, ils étaient communistes, eux aussi.
Oui, mais pour eux, ils travaillaient dur et ils pensaient que c'était pas pour que je puisse faire des études et c'était pas pour que j'aille distribuer des tracts pendant que eux étaient à l'usine et que moi, pour eux, c'était... pour eux, c'était incompréhensible. Comme j'avais la chance de pouvoir faire des études, ils ne comprenaient pas que je ne profite pas de cette chance à laquelle ils n'avaient pas eu accès et que j'aille vendre un journal gauchiste. Mes parents étaient communistes, mais détestaient les étudiants gauchistes, surtout mon père. Et je raconte cette anecdote d'un retour à Reims. Mon père disait... tempêtait toujours contre les étudiants gauchistes et disait aujourd'hui ils viennent nous dire ce qu'on doit faire, mais dans 20 ans ils viendront nous commander. L'histoire lui a en grande partie donné raison quand on voit les trajectoires des dirigeants d'extrême gauche de l'époque. Enfin bon, ça c'est notre histoire. Mais pour mes parents, pour ma mère, avoir le bac était quelque chose de tellement inouï que quasiment ça suffisait. J'avais fait des études, j'avais le bac, je pouvais trouver un métier. Et quand j'ai voulu entrer à l'université, ma mère m'a laissé faire, mais elle m'a dit on te paye 2 ans d'université, mais c'est déjà beaucoup, après il faudra travailler. Elle ne se rendait pas compte du tout que 2 ans d'université dans une université de province, c'était rien du tout. Enfin, 2 ans d'université en général, d'ailleurs, c'est rien du tout. Ça ne donne même à l'époque, ça ne débouche sur rien. C'est pas. Mais pour elle, c'était quelque chose de tellement incroyable, inouï. Elle ne connaissait personne qui avait fait 2 ans d'université. Et donc, elle m'a soutenu. Mais au bout de 2 ans, elle voulait que j'arrête d'aller à l'université, que je travaille, parce que, évidemment, il fallait que je participe aux besoins de la famille et considérait que je devais travailler comme mon frère aîné pour participer aux besoins de la famille.
Et pourtant, j'imagine que vous avez fait plus de 2 ans d'études. Alors, comment vous y êtes pris ?
C'est un peu contre mes parents que j'ai continué mes études avec quelque chose qui existait à l'époque et qui s'appelait les IPES. C'était les instituts de préparation à l'enseignement secondaire, je crois. On passait un concours et on avait une sorte de petit traitement de salaire pendant 2 ou 3 ans pour... faire des études et passer les concours de l'enseignement supérieur, le CAPES et l'agrégation. J'ai passé ce concours, je l'ai obtenu, et c'est grâce à ce dispositif qui a disparu que j'ai pu continuer mes études. Ce dispositif a disparu parce que le ministère a considéré que très peu de gens qui obtenaient ce concours finissaient par obtenir le CAPES et l'agrégation. Pour des raisons simples, c'est que les gens qui obtenaient ce concours des IPES venaient de milieux populaires et que ceux qui réussissent l'agrégation ne sont évidemment pas ceux qui venaient de milieux populaires. C'était plutôt les gens qui avaient fait les grandes écoles, puis les classes préparatoires grandes écoles, puis les grandes écoles. Quand moi j'ai passé l'agrégation de philosophie, l'année où je l'ai passé, il y avait 14 postes. Et évidemment, c'était réservé aux normaliens et un pauvre étudiant comme moi de l'université de Reims n'avait absolument aucune chance d'avoir l'agrégation. Donc, mais je dois dire que c'est grâce à ce dispositif, qui évidemment ne m'a pas donné le CAPES ni l'agrégation, c'est grâce à ce dispositif que j'ai pu faire des études, que j'ai pu m'intéresser aux livres, et sans ce concours, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, je ne serais pas devant vous en train de faire cette émission.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous pensez ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est toujours... les futurs non advenus, il est toujours difficile de les décrire. J'aurais travaillé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais travaillé dans un bureau, je ne sais pas, dans une compagnie d'assurance, dans une banque, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Simone de Beauvoir, dans un volume de ses mémoires, se pose la question: qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas rencontré Sartre? En effet, qu'aurait été Simone de Beauvoir si elle n'avait pas rencontré Sartre? Je ne sais pas ce qu'elle aurait été, mais elle n'aurait sans doute pas été la Simone de Beauvoir telle qu'on la connaît et dont le nom est indissociablement lié à Sartre, au mouvement existentialiste, à toute une culture des années 50-60. Donc les futurs non advenus, on peut les évoquer. Qu'est-ce qui se serait passé si? Mais on ne peut pas par définition, on ne peut pas les décrire.
Mais vous vous posez la question parfois de ce que vous seriez devenu?
Oui, vous savez, à plusieurs reprises, j'ai pensé, quand je me suis inscrit à l'université, après le bac, je suis allé au service des inscriptions de l'université de Reims, et la secrétaire qui était là, derrière le bureau, m'a dit: vous voulez vous inscrire dans quelle discipline? J'ai dit anglais, parce que j'avais l'idée de devenir interprète. Je me voyais interprète dans des conférences internationales. J'avais dû voir ça dans un film ou dans un documentaire, je ne sais pas. Et je dis: et aussi en philosophie. Et la secrétaire m'a dit: ah, vous ne pouvez pas vous inscrire dans deux sections à la fois. Il faut choisir l'une ou l'autre. Et là, c'était vertigineux parce que c'est le moment, l'instant fatal qui, d'un seul coup, va décider de toute votre vie. Je ne le savais pas encore, mais cet instant fatal qui décide de toute ma vie a été celui-là. Et j'ai réfléchi comme ça, un instant, j'avais quelques secondes, j'étais comme ça au service des inscriptions, il y avait des gens qui faisaient la queue derrière moi. Et j'ai dit philosophie, qui était anglais, c'était une sécurité, ce que je pouvais croire à l'époque. J'aurais pu devenir interprète peut-être, je ne suis pas sûr. Philosophie, ça, vous ne voyez même pas ce que ça pouvait. Je voulais être prof de philo, en fait, dans un lycée. Et j'ai dit philosophie. Et évidemment, je me suis inscrit en philosophie, j'ai suivi des études de philosophie. Mais si j'avais dit anglais, ma trajectoire aurait été différente et ce que j'aurais fait aurait été différent. Je ne serais pas devenu ce que je suis devenu par la suite. Et donc, je n'aurais pas écrit de livre. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais déjà, en choisissant philosophie, c'était pas du tout un avenir assuré, parce que devenir professeur de philosophie dans le secondaire était pour quelqu'un comme moi quelque chose de très difficile. D'ailleurs, je l'ai appris à mes dépens par la suite, puisque j'ai raté le CAPES, j'ai raté l'agrégation, et je n'ai pas pu devenir... l'éducation nationale française m'a refusé la possibilité d'être professeur de philosophie dans un lycée. Donc même ça était... Donc il a fallu, comme je ne pouvais pas être professeur dans un lycée, par la suite, il a fallu qu'à nouveau, j'invente une réorientation de ma vie, de mes aspirations professionnelles, de ce que je pouvais faire. Et il fallait que je trouve du travail.
Alors vous m'avez dit un peu plus tôt dans l'entretien que l'accès à la culture était lié à votre homosexualité. Et donc, ça veut dire que vous avez évolué dans la différence par rapport à votre milieu familial. Vous êtes affirmé comme différent?
Je ne suis pas affirmé comme différent, je suis parti. Et à 19 ans, 20 ans, j'ai quitté mon milieu familial. Et sans qu'il y ait jamais eu d'explication, je me suis éloigné. Ça n'a pas été une rupture totale, radicale, immédiate, mais je me suis éloigné. J'étais mal à l'aise dans ce milieu dans lequel je vivais. Et évidemment, retour à Reims porte sur ça, le départ, puis le retour. S'il y a retour, c'est qu'il y a eu départ. Et qu'est-ce que c'est que ce processus de départ où on s'éloigne, où on arrive? Je suis venu à Paris. Et là aussi, c'est lié à l'homosexualité. C'est lié à l'homosexualité et au fantasme de la vie intellectuelle. Là encore, on retrouve ces deux éléments. Je voulais connaître la vie intellectuelle parisienne et je me fantasmais comme un philosophe, un futur philosophe. Et par ailleurs, je voulais vivre librement mon homosexualité et sans avoir à me cacher, ce qui évidemment n'était pas très facile à Reims. Ces deux éléments ont été déterminants dans la fuite, je peux dire, dans le mot transfuge de classe. Il y a le mot fuite et je tiens absolument à ce mot transfuge parce qu'on ne peut pas faire comme si simplement on passe d'une classe à une autre. Non, c'est une fuite délibérée et obstinée parce qu'on veut devenir quelqu'un d'autre, on veut faire autre chose, on veut ne pas être comme ce à quoi on était promis si on restait dans le milieu dans lequel on était inséré auparavant. Donc cette fuite a été déterminante. Je suis venu à Paris, j'ai continué mes études à la Sorbonne, mais je me suis inscrit en thèse. Mais comme il est très difficile de faire une thèse quand on n'a pas d'argent pour vivre, donc je travaillais, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel, je surveillais des ordinateurs qui étaient à l'époque des grandes armoires qu'il fallait reprogrammer tout le temps, là aussi le soir ou la nuit. Et on peut pas faire une thèse dans ces conditions. En tout cas, j'ai abandonné. Et par les miracles de l'existence, parce qu'il en existe, liés d'ailleurs aussi à la vie gay, au mode de sociabilité gay, à savoir, on rencontre quelqu'un qui vous présente des amis. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé d'écrire des articles pour Libération. Et donc là, il y a eu une déviation de trajectoire qui n'était pas du tout écrite, qui n'était pas du tout annoncée, qui n'était pas du tout programmée, mais qui a été aussi tout à fait déterminante.
Ben c'est ce que vous allez nous raconter demain. Merci Didier Ribon, et à demain.
Demain, la suite de cette rencontre d'Antoine Ravon avec Didier Ribon. À voix nue. Réalisation Marie Placet, prise de son François Rivalant, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.